pour ceux qui étaient là, bien sûr, du message de la semaine dernière, ma chemise. Elle est belle, belle chemise. Ouais. Je suis un homme fleuri, comme disait tout à l'heure. Mais pour être fleuri, il faut savoir s'arroser. Je ne vous dirai pas avec quoi je m'arrose. Pardon ? Regardez vers Maryse, elle vous dira tout. Maryse aussi est fleurie ce matin, avez-vous remarqué ? Non, mais est-ce que vous vous souvenez du message de la semaine dernière ? C'était quoi ? Ne refais pas le message, s'il te plaît. Hein. La plénitude. Ouais, c'est rien. C'est la plénitude en Christ. Alors, quelles sont les quatre étapes ? Ah, c'est déjà plus dur. La première étape, c'était la rédemption. La séparation. Ensuite, la mort à soi-même. Et enfin, demeurer en Christ. Bon, à plusieurs, on y arrive. Hein. Vous comprenez pourquoi on triche, ça souffle dans les salles de classe. Parce que tout le monde n'a pas tous les réponses et on arrive à s'y retrouver. Ouais, la semaine dernière, j'avais ouvert ce mois sur la guérison. Tu peux mettre, chérie, s'il te plaît. En vous emportant des clés vers la plénitude en Christ. Donc, je vous avais parlé de... Merci, mon amour. Vas-y, tu peux l'activer et normalement, je devrais pouvoir prendre le relais. Vas-y, appuie sur la barre espace. Ça n'avance plus ? Bon, ben, c'est fini. C'était bien, hein ? Ça y est ? Ah, voilà. Je vous avais parlé de la rédemption, de la séparation, de mourir à soi. Pourquoi ? Parce que c'était la prière de Paul, et la prière de Paul correspond, je pense, à la volonté de Dieu de nous amener vers la plénitude en Christ. On peut rechercher la guérison, on peut rechercher plein de choses dans la vie, mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre toute la plénitude de Christ en nous. Et il y a une volonté, et d'ailleurs je vous l'avais dit, la volonté de l'Esprit Saint, c'est de nous amener à vivre toute la plénitude en Dieu. Et ça comporte aussi la guérison. La guérison n'est pas un but en soi. La guérison n'est que la conséquence de ce que Dieu veut me faire vivre, la plénitude en lui. Le but que je recherche, c'est la plénitude. Et forcément, la guérison vient. Telle était la prière de Paul, donc afin que vous soyez tous remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et on avait prié pour cela. Et je me rends compte en réalité que même à travers l'épreuve, peut-être qu'une sœur témoignera prochainement de ce qu'elle a vécu malgré l'épreuve. Je vois Nathan de ce qu'il a vécu malgré l'épreuve. Et nous, on l'a vécu de l'intérieur. D'ailleurs, pas bien de faire brère ta père. Hein. Ça m'a touché parce qu'on a vécu les choses de l'intérieur, vous comprenez ? Et nous aussi, on a eu nos moments de doute en tant que parents. Hein. On a eu nos pleurs, nos inquiétudes, qu'on ne laissait pas forcément paraître à Nathan. Mais Dieu est fidèle. Il est infiniment grand et fidèle dans les moindres détails de nos vies. Et vous savez, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui semblaient vivre cette plénitude. En tout cas, qui paraissaient, je ne sais pas comment... Est-ce que des fois, vous rencontrez des personnes, vous dites, mais cette personne a quelque chose de particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Elles avaient une telle paix, une telle joie dans leur relation avec Dieu, une telle liberté par rapport au lien du péché. Je les voyais vraiment très faciles dans leur manière de se séparer du péché. Et je voyais chez elles un si beau fruit, montrant qu'elles vivaient une vraie vie renouvelée par le Seigneur. Et j'avais à la fois envie de passer du temps avec ces personnes. Avez-vous déjà remarqué, des fois vous dites « Oh, j'aimerais passer un peu plus de temps avec cette personne ». Vous avez envie de goûter à ça. Mais plus encore, moi, j'avais envie de devenir comme ces personnes. Alors certains vous diront, les puristes diront, ouais, tu dois ressembler à Christ. Mais moi, la Bible dit aussi, Paul le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et parfois, votre vie peut avoir un impact, la manière dont vous vivez les choses peut avoir un impact sur votre entourage. Et vous... Nous sommes appelés, en vivant la plénitude de Christ, à donner, à avoir envie aux gens de vivre ces choses. Une vie transformée, c'est tellement puissant, n'est-ce pas ? parce qu'elle est attirante. C'est comme, moi je parle en tant qu'homme, c'est comme quand lorsque je vois ma femme sortir de la salle de bain habillée ce matin, j'avais qu'une seule envie, c'est de la prendre dans mes bras et de la décoiffer. Pourquoi ? Parce qu'une vie, renouvelée, elle est puissante en parole, mais pas que. Elle est puissante dans les actions. Elle est puissante dans la transformation. Et j'insiste sur ce fait parce que les gens ne vous suivront pas et vous ne serez jamais un modèle si nos actes ne correspondent pas à nos paroles. Vous comprenez pourquoi ? Que l'une des valeurs que nous avons ici dans cette assemblée, c'est de connaître, mais de faire surtout. Parce que c'est ce que nous faisons qui est important. Et on peut vérifier ça à travers la vie de notre Seigneur Jésus. Moi, je remarque, quand je vois Jésus appeler ses disciples, il marche sur les bords du lac, il appelle Pierre, André, ils jettent leur filet, ils disent « Suivez-moi, les gars, laisse tout. » Ils suivent Jésus. Parce que Jésus, il est dans la plénitude du Père. Il l'impactait. Un jour, j'ai entendu le témoignage de quelqu'un, c'était, vous connaissez peut-être ce prédicateur, c'était à 100% pour Jésus, donc c'est très vieux. Parce que je me souviens, c'était l'année où je vous ai rencontré les frères petits. Et c'était Mamadou Karambéry, vous vous souvenez, qui prêchait pendant ce week-end à The Rencontre. Et Mamadou Karambéry était tellement imprégné de la présence de Dieu, et qu'il paraît que quand il prenait le métro, les gens se repentaient de leurs péchés sans qu'ils disent quoi que ce soit. Vous vous souvenez de Hervé Guillois, de son témoignage dans l'église dans laquelle il était, il nous disait que quand les gens rentraient dans l'église, les gens se repentaient dans son église, à une période de réveil. Malheureusement, peut-être pas vous, hein, peut-être que vous y êtes arrivés dans la plénitude de Christ, mais moi en tout cas je trouve que je dois encore être restauré et renouvelé dans la présence de Dieu. Afin que je transmette ça, cette vie de Christ en moi, que je la transmette aux autres. Mais malheureusement, vous le savez, hein, lorsqu'on pêche, on attriste le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Lorsqu'on désobéit, le Saint-Esprit est plutôt triste. Il est comme une colombe, il est dit. Il a tendance à prendre de l'envol et de s'éloigner. Et le résultat, c'est que quand on n'est pas rempli de l'Esprit, quand on n'est pas plein de Dieu, on ne fera pas grand-chose. On a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et je veux vous convaincre ce matin de la nécessité d'être restauré et renouvelé par la puissance de Dieu et de faire de vous, de nous, des hommes et des femmes qui impactons ce monde dans lequel nous vivons. C'est en tout cas l'un des buts que je me fixe ici, de vivre à Betzalel. L'idée, ce serait de pouvoir déclarer ce que Paul déclare ici. J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. La question, mais ne me répondez pas. Est-ce que vous pouvez déclarer ce que Paul a déclaré ? Y a-t-il encore des domaines dans votre vie où Christ n'est pas votre vie ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr, on a reçu le salut pour ceux qui se sont repentis et qui ont fait le choix d'obéir au Seigneur et de marcher dans ses voies. Mais moi, parfois, je peux vous le confesser, je n'ai pas toujours cette capacité de dire que c'est Christ qui vit pleinement en moi. Le problème, c'est que Bruno, mais je peux m'avancer et j'ose le faire, vous et moi, nos mauvais comportements, nos réactions, nos actions, nos priorités trouvent leur source dans nos cœurs blessés et dans les conséquences de notre péché. On a beau dire ce qu'on veut, mais c'est plus souvent notre chair qui nous amène à faire les choses que l'Esprit Saint. Et c'est un peu, Pourquoi ? Parce que le gars qui vient de se taper avec le marteau sur le doigt, c'est tout à fait Bruno. Dernièrement, j'étais ici il y a une semaine et je coupe les trucs là, j'étais venu une demi-heure faire ça, j'avais 5 minutes à perdre, et je coupe et je prends le cutter et je coupe la feuille, mais j'ai oublié d'enlever mon doigt. Et on voit encore la cicatrice, vous voyez, hein? Tu veux voir ma cicatrice? Mais la réaction que j'ai eue, c'est pas mince. Une colère qui est venue de ne pas avoir fait attention. Et parfois, je me rends compte même quand je suis dans une situation de stress comme ça, j'en voudrais au monde entier. C'est pas de ma faute, c'est de votre faute si je me suis coupé. Est-ce que vous comprenez ça ? Souvent, on rejette sur les autres ce qui nous arrive, alors que nous sommes les propres responsables. Vous pouvez vous rendre compte, selon les enseignements de Paul, de ce qu'on vient de lire, que Christ ne peut pas vivre en moi si je ne meurs pas au préalable. Je répète, une des portes qui me conduit vers la plénitude, c'est la mort à soi. Et que Christ ne peut pas réellement vivre en moi tant que le péché n'est pas amené à la destruction. Et c'est cette foi que nous avons en croyant que c'est Jésus, c'est ce qu'il a fait sur la croix. Il est mort pour anéantir cette puissance du péché. Et nous voyons aussi que l'une des origines du mauvais comportement puise sa source dans nos cœurs blessés. En effet, c'est souvent ma douleur qui produit ma mauvaise réaction. Malheureusement, vous savez, mes blessures, mes souffrances, mais je vous parle aussi à vous, hein, vos blessures, vos souffrances produisent des comportements destructeurs pour nous et pour les autres. Vous savez, j'ai subi des agressions de personnes, alors ce n'était pas physique, mais c'était parfois en parole, en attitude, de personnes qui étaient non guéries. Et j'ai souvent agressé parce que mes émotions négatives, le fruit d'une blessure du passé, n'avait pas encore été guéri. En fait, si je considère les choses, je m'aperçois que si on veut vivre l'esprit de famille, on a besoin d'être restauré pleinement pour que nous ne passions plus notre temps à nous restaurer les uns les autres, mais à vraiment faire ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, si nos cœurs ne sont pas guéris, on va passer notre temps dans des conflits, dans des situations à régler, et on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande. On passe notre temps, vous savez, à être replié sur nous-mêmes. « Ah, il faut que je demande pardon, il faut que tu me demandes pardon, il faut que tu changes, etc. » On passe notre temps à faire ça, alors qu'en réalité, l'Église n'a pas été créée pour ça. Quand Christ dit « Je bâtirai mon Église », c'est pour qu'il l'envoie dans le monde sauver les âmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous guérir. Par ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de conflits familiaux, amicaux, professionnels et dans l'Église de Jésus-Christ avaient pour origine des cœurs blessés et non restaurés. Oui, plusieurs sont piégés par des blessures du passé et ont besoin de guérison intérieure. Or, la guérison, elle est pour vous. Moi, quand j'entends un témoignage comme celui-là, je dis combien Dieu avait son œil sur son Fils et combien il a l'œil sur chacun d'entre nous. Et je peux vous dire que Nathan, il a vécu le rejet depuis sa plus tendre enfance. Nathan, il avait besoin de se sentir sécurisé parce que les hommes l'ont tout le temps descendu. Ils ont toujours négligé qui il était. Je suis désolé d'en parler, mais c'était ça, son schéma de pensée. Mais à travers ce qu'il a vécu, Dieu lui a montré qu'il avait beaucoup de valeur à ses yeux. Toutes les expériences d'une vie nous amènent à faire croire, à nous amener dans la peur, dans la crainte, dans le fait que Dieu ne s'intéresse pas à nous, qu'il ne veut rien faire avec nous. C'est faux. La guérison est pour moi. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Pas simplement il console, mais regarde ce qu'il fait. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dieu ne te console pas simplement, mais il te sauve, il te fait sortir de ta situation. Regarde, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Encore, éternel mon Dieu, j'ai crié à toi. Et vous avez entendu Nathan ? Il a crié au Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Et tu m'as guéri. Oui, Dieu est proche et il agit. C'est pourquoi Paul déclare, je lui demande, j'en reviens au texte de la semaine dernière, qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance. On a chanté Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu veut agir, Dieu veut faire les choses. Et d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. C'est-à-dire que Dieu veut manifester la puissance de son esprit dans ton cœur. Il veut te libérer de ce qui te lie encore aujourd'hui. Il veut te guérir de ce qui t'empêche d'être totalement libre de pouvoir servir le Seigneur. Et que Christ habite dans votre cœur par la foi. Vous comprenez ? Pourquoi Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Vous comprenez que si je ne suis pas guéri, s'il y a encore des choses en moi, c'est que Christ n'est pas pleinement en moi. Je ne mets pas de poids d'accusation. C'est un constat que je remarque dans ma propre vie, dans la vie de mes frères et mes sœurs. Et nous avons besoin d'être fortifiés puissamment par l'Esprit du Seigneur et être guéris et délivrés de nos maux. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. L'œuvre de la croix, tellement parfaite, tellement puissante, tellement grande. Il était brisé pour nous. Et c'est par ses blessures que je suis guéri. La guérison, tu ne la reçois pas uniquement par un entretien pastoral où le pasteur te dit « Allez, sois guéri ». C'est l'œuvre de la croix qui se manifeste. Est-ce que vous comprenez ça ? Ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas simplement une parole de quelqu'un. C'est l'œuvre de la croix qui fait cette chose. Vous comprenez ? C'est la puissance de ce que Jésus a accompli qui te guérit. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je suis très court, hein, parce qu'on va faire la rentrée des classes. Que devons-nous faire et qu'allons-nous faire ce matin ? Et je me disais, et si on commençait par regarder à soi-même ? Parce que, en me regardant, vous pouvez dire, bah Bruno, je pense qu'il y a ça en lui. Hein ? Même si je suis quelqu'un d'assez parfait, je dois le dire, et humble. Bien sûr, humble. Mais on pourra facilement voir dans le cœur de l'autre ce qui ne va pas. Est-ce que c'est tellement facile ? Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, en réalité, je m'aperçois que c'est beaucoup plus simple et que le fait de regarder à soi, ça nous fait peur. Et je prie ce matin pour que vous puissiez regarder à vous, à votre propre cœur. Arrêtez de me regarder, vous ne trouverez rien. Et si on commençait par s'examiner, Paul le dit hein, aux Corinthiens, que chacun s'examine soi-même. C'est déjà un bon début. La deuxième chose, c'est le pardon. Vous savez que le pardon, il y avait un homme, c'est Samuel Azakorsian qui avait écrit un livre, c'est très vieux, donc les plus jeunes ne cherchaient pas. Ce matin, on a parlé d'un film avec Maryse au groupe de louanges qu'on avait vu il y a très longtemps. Qui connaît François Ier avec Fernandel ? Qui a vu ce film ? Vous êtes vieux. Et Samuel Azakorsian, il a écrit ce livre, Le pardon, une puissance qui libère. Le pardon, c'est une arme puissante pour la délivrance et la guérison. Vous savez, lorsque vous pardonnez, vous vous libérez de votre agresseur. C'est une arme spirituelle. Et le refus de pardonner est une entrave à l'action de Dieu. Puisque Jésus l'a dit, si vous ne pardonnez pas, il ne vous sera pas pardonné. Et puis, j'ai remarqué aussi quelque chose. Alors ça, c'est avec l'expérience que je vois ça. C'est qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à se pardonner à elles-mêmes, à soi-même. Parfois, on ne sait pas se pardonner. Je crois que je ne sais pas si j'ai témoigné, mais j'ai rencontré ma cousine, une cousine que je n'ai pas vue depuis 30 ans. Et dans ce que j'avais reçu, c'était vraiment quelque chose de fort qu'elle vivait, parce que, à tel point, là, je crois que je l'avais dit, elle avait fait un burn-out suite à ça. Il y avait un poids qui était sur son cœur depuis des années pour une chose, et le Seigneur me l'avait révélé, hein, pour une chose qu'elle n'avait pas faite. Alors, elle ne me l'a pas révélé, mais je n'avais pas besoin de le savoir après tout. Et je suis allé la voir, je lui ai dit, tu sais, il y a quelques années, il y a une chose que tu n'as pas faite et que tu aurais dû faire, il y a un poids de culpabilité qui pèse sur tes épaules. Et Dieu m'a parlé et m'a dit, je voudrais vraiment qu'elle reparte de cet enterrement libre. Waouh ! Et elle m'a dit, tu as raison, il faut que j'accepte de me pardonner. Et elle a fondu en larmes dans mes bras. Pas chrétienne, mais peu importe. C'est qu'il y a un attouchement de l'Esprit Saint qui a renvoyé cette femme libre de toute culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'elle ne savait pas se pardonner à soi-même. Et souvent, à travers les situations qu'on a pu vivre, souvent, j'ai remarqué, il y a toujours dans notre cœur comme un poids de responsabilité, comme si c'était notre faute. Je me souviens, il y a quelques années, on avait fait un entretien avec Maryse, avec une femme qui avait été abusée. Elle se condamnait à tel point même qu'elle se faisait, vous savez, des fois on se fait des lacérations, elle se faisait du mal. Et puis là, ce qu'on peut faire ce matin aussi, c'est confesser, abandonner notre péché, nos émotions négatives et les mensonges qui en résultent. Alors pourquoi j'ai mis cette table ? Vous allez me dire, oh, ce n'est pas la rentrée, hein. Vous n'aurez pas de devoir à faire. Mais quelque part, le Seigneur m'a donné ce passage que je vais lire et m'a dit, Bruno, tu vas leur demander de faire ça. Quelques exorcistes juifs. Alors, vous n'êtes pas exorciste ni juif. Ça commence bien. Surtout, ne vous sentez pas coupable. Et essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Seigneur, par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les sept fils de Séba et un juif, chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous ? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les méprisa, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Il y a une action puissante de Dieu qui se manifeste à Éphèse, hein. Et juifs et non-juifs. Et écoutez ce qu'il est écrit. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur de Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement. Alors, on ne va pas reconnaître publiquement. Ce serait malsain. Mais j'ai mis des petits papiers ici. J'ai mis quelques stylos. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie. Alors, je vous demande, peut-être que vous avez fait de la magie, vous pourrez l'écrire, mais c'est surtout ce que je vais vous inviter à faire. C'est écrire un péché, peut-être récurrent sur votre vie. L'écrire là. Vous venez chercher le petit papier, vous n'êtes pas à crier, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous l'écrivez. Non mais attendez, on va faire quelque chose. Et puis, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Vous voulez que la parole du Seigneur se propage et gagne en puissance ici ? eh bien, on va se débarrasser de certaines choses. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Y a-t-il une émotion négative récurrente ? Je parle de la crainte, par exemple, de la peur. Je parle du rejet. Je parle de plein d'émotions qui peuvent venir. Parfois, il y a de la colère dans les cœurs des gens. Ça peut être aussi un péché récurrent, une addiction. Ça peut être, je ne sais pas moi, le mensonge. Enfin, je vous laisse déterminer le péché. Je prie que le Saint-Esprit nous révèle ces choses. Ça peut être aussi, je sais que vous m'avez mal à l'aise, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça ici. Un refus de pardonner à quelqu'un, à vous-même, à Dieu peut-être aussi. Peut-être que vous en voulez à Dieu au fond de votre cœur pour certaines choses. Lié à une incompréhension, peut-être aussi un besoin de guérison intérieure suite à un traumatisme vécu par des actes, par des paroles. Voici quelques phrases que vous pourriez écrire. Père, je pardonne cette personne qui m'a dit ces paroles ou qui a fait tel acte. Père, je te demande de m'aider à me pardonner ceci. Pardonne-moi, Seigneur, tel péché. Je te remercie pour ton pardon. Père, je te demande de me guérir et d'enlever cette... Je renonce aujourd'hui à la colère. Je renonce aujourd'hui au mensonge. Je renonce aujourd'hui au rejet. Ce qu'on vous allez faire, on va prendre donc le temps avec l'équipe de louanges. On va chanter un chant. On va jouer de la musique. Moi, je vais marquer un truc déjà. Je vais vous montrer ce que je fais. Je prends ce papier. Je le prends. Je montre l'exemple. Je le mets dans la poubelle. On ne va pas mettre le feu ici. Hein. Problème de sécurité. Après, ça va sonner partout. Tout à l'heure. Je ne vais pas regarder ces papiers, je vous demande de les plier. Je rentre à la maison, j'ouvre ma cheminée, l'insert de la cheminée, et je mets le feu à ça. Je prends une photo, je l'envoie. Parce que je ne veux plus vivre ce que je vis depuis des années. Je renonce à ce que je viens d'écrire. Je me libère maintenant. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus ça qui vit en moi, c'est Christ dans mon cœur. C'est Christ dans ma vie que je veux voir régner. Vous ne pourrez pas être restauré pleinement si vous ne faites pas ce pas de foi. Vous allez me dire, mais pourquoi demande-t-il cela ? Je peux le faire depuis ma place. C'est un acte de foi. Je pense, j'ai plein d'actes de foi que je vois. Je me pense à cette femme qui avait des pertes de sang et qui est allé frayer un chemin pour toucher le vêtement de Jésus. C'est son acte de foi. Que s'est-il passé ? Jésus a dit, qui m'a touché ? Et que dit Jésus à une fois ? Femme, que t'arrive-t-il ? C'est toi qui m'as touché. Et que dit-il à Jésus ? Va, ta foi t'a guéri. Aujourd'hui, je vais mettre en action ma foi. Je l'ai mise en action. Et je suis sûr que Dieu veut me guérir de cela. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire aujourd'hui comme pas de foi ? J'espère avoir mis assez de papier. Et assez de stylos. Je vous laisse. Faites comme bon vous semble, hein.